Mesdames et messieurs, okay. Tout d'abord, je voudrais dire mon remerciement à tous les organisateurs de cette séance, à l'association culturelle franco-khmer, à l'école Khmer de Paris, à l'association d'échange et de formation pour les études Khmer, ainsi qu'à vous tous, pour l'honneur que vous me faites de venir jusqu'ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a des khmerisants dans cette salle, mais le sujet que je vous propose aujourd'hui n'a rien de véritablement original ou inédit. Je viens tout simplement avec un sujet assez simple finalement, mais j'ai pensé qu'il était utile de le partager avec des gens qui simplement aiment le Cambodge ou qui gens de la diaspora soucieux de mieux connaître la culture khmer, voilà. Et le titre, j'espère que vous voyez bien. Alors voilà l'histoire religieuse du Cambodge en trois lignes, même pas. C'est simplement pour vous dire qu'il y a que dans la religion du Cambodge d'aujourd'hui, bien sûr, c'est le bouddhisme du Theravada. Mais derrière cette bannière officielle bouddhisme, il y a quand même trois grands éléments. Tout d'abord, l'animisme, c'est un terme qu'on utilise pour une simple raison de commodité, qui n'est pas spécifique au Cambodge. C'est un système de pensée, système de croyances que nous partageons avec beaucoup, beaucoup de populations de l'Asie du Sud-Est et dont il est impossible de remonter jusqu'à l'origine. Et le Cambodge a traversé plusieurs siècles d'indianisation, c'est le terme consacré. Pendant plusieurs siècles, nous avons reçu des influences culturelles indiennes, dont les religions indiennes, toutes obédientes, toute forme de brahmanisme, toute forme de bouddhisme, etc. Disons que le Cambodge classique s'est formé entre, grosso modo, le 6e et le 14e siècle. À partir du 14e, nous adoptons officiellement le bouddhisme du Theravada. J'ai utilisé le mot « couche », ça n'est pas un mot approprié, surtout si vous le prenez au sens archéologique du terme, parce que l'animisme, qui est la religion la plus ancienne, perdure jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est perdu. C'est pour montrer tout simplement l'héritage culturel du Cambodge. Alors voilà le sujet. Notre conception du temps n'est pas une conception linéaire. Le temps n'est pas linéaire, le temps est cyclique. Depuis toujours, les Khmer ont adopté le mot Kal, du sanskrit Kala. C'est un mot qui veut dire à la fois le temps et la mort. Et parce que comme le temps est cyclique, il arrive au bout et puis il se recrée, etc. D'où création. C'est valable à la fois pour les humains et pour la vie de l'univers. Ça commence évidemment par la création, l'usure du temps, l'usure de l'univers avec le temps et la fin. Et puis la recréation, c'est un cycle sans fin. Et par conséquence, si on raisonne sur le niveau de l'être humain, on peut dire que la mort est liée à la renaissance. Et nous sommes un peuple qui croit à la réincarnation. Je ne suis pas très fort pour le dessin, mais voilà. Imaginons quelque chose comme ça, la création ici. Voilà le temps qui avance et qui use tout. Tout s'use avec le temps. Et voilà, au bout, c'est la fin. Mais vous remarquez qu'il y a une certaine zone de battement entre la fin et la recréation. Pour l'univers, c'est tout simplement ce qu'on appelle le chaos. Et pour l'être humain, c'est le temps nécessaire à la transformation. Entre la mort et la vie et la renaissance, il y a une petite période de temps. Le temps, la mort surtout, la mort-renaissance est matérialisée sous la forme d'un démon sans corps qui n'a que la tête. C'est en sanskrit, c'est Rahu, mais en khmer, ça se prononce Rihu. C'est la matérialisation du temps, de la mort. Rihu, c'est le démon qui cause l'éclipse, qui est la cause des éclipses lunaires ou solaires. Rihu est présent un peu partout. Je vous montre cette image qui est une anecdote. C'est pour vous dire que je m'étais intéressé à Rihu depuis un certain temps. Mais voilà que assez récemment, un jour, je suis tombé sur un site archéologique abandonné. Et parmi les blocs que vous voyez là, je suis tombé sur cette image de Rihu. Mais comme c'est un bloc à terre qui n'est plus lié à une structure, je pouvais approcher l'image de différents angles. Et je me suis rendu compte, regardez bien cette image. Voilà, là. La voilà. Si je regarde de ce côté, je vois une espèce de monde. Voilà les deux yeux, le nez, la bouche. Mais la même image, totalement renversée, ça vous donne ça, un autre monstre, un nez, des yeux, des crocs, etc. Est-ce que c'est intentionnel de la part de l'artiste? Je pense que oui. Je pense que oui. Et donc, je me suis retourné vers des images que j'avais déjà. Par exemple, ça, une colonne d'une pagode abandonnée, avec une colonne en bois, avec cette image de Rihu. Là, comme la colonne est droite, je ne peux pas, mais je peux jouer avec la photo. Voilà la même photo, ici. Voilà, en mont, Rihu. Et puis, je la mets tête bêche. Vous voyez, deux yeux, le nez, la bouche, etc., une barbiche. Je pense que dans ces deux cas, j'en ai d'autres, je pense que c'est, dans ces deux cas, cela ne tient pas dans hasard, je pense que c'est intentionnel. Mais je ne prétends pas que toutes les images de Rihu sont comme ça. Rihu est présent un peu partout, par exemple sur cette pièce à Bonté Israël, je ne sais même pas ce que c'est, je ne connais pas la fonction. Il est à terre et puis... Si vous agrandissez, vous voyez une image de Rihu peut-être avalant quelque chose ici. Ici, à l'angle dans, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous avez une espèce de guirlande qui tombe comme ça, et puis au bout, vous avez Rihu. Je vous signale qu'en histoire de l'art, on dit Kala. Si vous apprenez l'histoire de l'art khmer en France, on appelle ça Kala, c'est-à-dire le temps. Et dans la langue khmer, il y a le mot Prakal, c'est le temps, la mort personnifiée. Kal, c'est Kala. Alors, je vous montre cette image pour... simplement pour Comment vous dire, pour tempérer mon ardeur à toujours voir en recou le symbole de quelque chose. Ici, ça apparaît comme un simple motif décoratif puisqu'il y a un Garuda ici, etc. Sur les pilastres en rouge là, d'un temple. Alors, voilà un fronton d'un sanctuaire. Si vous demandez à un étudiant en histoire de l'art de le décrire, certainement, il va vous dire que le motif principal, c'est le dieu Indra sur son éléphant tricéphale, à trois têtes. Mais on remarque que le tout est posé sur un rihu. Est-ce que c'est simplement décoratif ou est-ce que ça a une signification particulière? Une autre présentation scène tirée du Mahabharata, j'oublie le nom du démon, de la dame, tout ça. Voilà le thème principal. Hein. Mais on voit qu'il y a un support qui est rihu. Voilà un linteau. Tout ça, ça vient des différents endroits du Cambodge, je ne sais pas. Le thème principal, c'est le fameux Shiva dansant. Voilà le dieu Shiva au bras multiple. Voilà le dieu Brahma. Voilà Vishnu. On voit que Shiva pose ses pieds sur une espèce de socle, lequel, à son tour, se pose sur la tête de Rihu. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que Rihu ici est purement décoratif? Mais voilà que Rihu ici apparaît comme le thème principal, le motif principal de tout le linteau. Hein, c'est lui qui est au centre. Pardon. Du linteau. Ici aussi, il est sculpté tout à fait au centre du linteau. Ici aussi, encore au centre du linteau, c'est lui le personnage principal. Il n'est plus un simple décor comme dans les autres. Voilà une image un peu énigmatique qui mérite réflexion. Voilà le temple de Prahapalilai dont on ignore l'époque de la construction. En tout cas, moi je l'ignore. C'est un temple bouddhique. Sur le fronton, on voit le Bouddha. Je ne me rappelle plus de la scène, mais voilà le Bouddha. Et puis sur le linteau, comme motif principal, vous avez le Bouddha, ce qu'on appelle en français vulgairement le Bouddha couché. On dit Bouddha couché. Le Bouddha couché sur un rihu. Mais si on considère la taille de rihu et du Bouddha, voyez-vous, le rihu apparaît comme aussi important que le Bouddha. Qu'est-ce que c'est que le Bouddha couché en Khmer? Nous ne disons jamais ça. C'est le Bouddha qui est entré dans le Nirvana, Prachonipien en Khmer. Mais pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est que le Nipien, que le Nirvana? C'est simplement la mort. Donc, à ce stade-là, on peut dire que Rihu est nettement lié à la mort ici. Seulement dans la langue, surtout en Khmer, on ne dit jamais le Bouddha mort. On dit qu'il est entré au Nirvana. Mais je vous demande de considérer la taille de ces deux personnages. Rihu n'est plus un simple décor, visiblement. Il est associé au Bouddha mort, entre guillemets. Autre chose, dans la région d'Angkor, on a trouvé, je ne me souviens plus du nom exact, mais un peu moins d'une trentaine de cuves comme ça, qui sont des, visiblement des sarcophages. La plupart ont des, c'est pour contenir des cadavres, hein, des morts. La plupart ont des tours d'évacuation, c'est pour les salir. Ce sont des pièces très très érodées. On voit pas bien la sculpture. Si vous considérez ce sarcophage là, vous voyez que quelque chose d'assez vague, mais qui a un volume. Heureusement, nous avons une pièce relativement, moins détruite que les autres par rapport aux autres. À Bantir Sambrai, vous regardez le trou d'évacuation, c'est quoi? C'est un repou. Là, assez visiblement, le repou est associé à la mort. Mais la mort étant aussi la renaissance, il est associé aux deux, hein, du cycle de la vie. Le temple date du XIIe siècle. Je ne sais pas de quand date le sarcophage qui se trouve dans ce temple. Peut-être plus ou moins contemporain, je ne sais pas. Mais voilà nos temps modernes, l'époque contemporaine. Si vous considérez ce cercueil moderne, regardez bien le motif qui est au centre, tout petit là, c'est Rihou aussi. Voyez-vous, ça n'a pas beaucoup changé par rapport encore à notre. La photo est mauvaise, mais ici aussi un cercueil moderne. Si vous examinez bien, il y a une vague où au moins ça suggère Rihou aussi. Là, dans la région d'Anko, un char funèbre. J'oublie le mot français là. Comment c'est? Oui. Le char là. Vous voyez une image de Rihou ici. Un autre char funèbre, Rihou au milieu aussi. Tout ça, on ne peut plus dire que c'est un simple motif décoratif ou une coïncidence. Le même char, hein, le même char, mais au plafond. Vous voyez des divinités, tout ça. À côté, il y a un Rihou qui est présent sur le char. Un autre char funèbre, voyez-vous, Rihou au milieu encore. Là, c'est un bas-relief de Bayonne. Je ne prétends pas du tout que c'est un char funèbre, je ne sais pas. Mais c'est juste pour vous montrer la représentation de Rihou ici. Tout comme cet édifice, c'est extrait du Vesandara Jataka, voilà un édifice dont le fronton porte une... visiblement ce n'est pas quelque chose de funéraire, hein, puisqu'il s'agit de l'histoire de Vesandara. Mais revenons à ceci, toujours au Bayonne, vous avez très clairement, ça n'a pas beaucoup changé la forme, hein, on appelle ça aujourd'hui un main, c'est-à-dire un pavillon pour la crémation, mais érigé pour une crémation et puis on enlève, on détruit. Vous voyez qu'au sommet, au fronton, une représentation de Rihou. Hein? Dans les temps modernes, c'est ça. Hein, ça. Voilà le support à plusieurs étages, c'est la même chose. Hein. Une pagode dans la région de Siem Reap, c'est un crématorium aussi, c'est pour incinérer les morts. Ici, on a vu en lanto ancien, vous avez le dieu Indra sur son éléphant à trois têtes, le tout posé sur un Rihou. vous me dites que ah, ça c'est normal parce que étant à Siem Reap, les artistes, les artisans se sont inspirés des temples. Mais au plafond, là, il y a une image de Réhou en train d'avaler la lune, le soleil, je ne sais pas. Encore une fois, le Réhou, c'est le démon qui provoque les éclipses lunaires ou solaires. Voilà, en pleine campagne, un pavillon de crémation provisoire, c'est érigé juste pour la crémation. Et au plafond, si je puis dire, on a ajouté cette image de Réhou aussi. Vous voyez qu'il est intimement lié à la mort et à la renaissance. Toujours dans la région d'Angkor, parce que c'est sur ce plan-là, c'est la région la plus riche, parce que ce sont les héritiers directs des gens d'Angkor, de l'époque d'Angkor. Voilà un modeste pavillon de crémation. En Khmer, ça s'appelle Bokbuon, donc il y a 4 frontons. Là, je dispose ces images selon les directions de l'espace. Au nord, qu'est-ce qu'on a sur le fronton du nord? On a la déesse terre, Mekong Hinh, thème bien connu. Au sud, on a une déesse non identifiée. À l'est, on a un Bouddha, ce qui apparaît... Je ne connais pas la signification de... pourquoi la déesse terre est liée au nord et cette déesse est liée au sud, je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire. Mais ici, ça m'apparaît comme normal, parce que le Bouddha à l'est, c'est normal, l'est étant la direction de la naissance. Et Réhou à l'ouest, ça m'apparaît aussi normal, Réhou étant associé à la mort. Donc retenez bien ça, hein. Au nord, la terre, au sud, déesse non identifiée, etc. Alors, comparez ça avec ça. Un autre endroit, mais toujours de la région d'Angkor. Même chose, la déesse terre au nord, déesse non identifiée au sud, Réhou à l'ouest, comme ici, mais au lieu d'avoir le Bouddha à l'est, ici vous avez un autre Réhou, mais cette fois-ci, qui n'est pas en train d'avaler un astre, mais qui visiblement recrache quelque chose, une guirlande de fleurs ou des branches végétales. Donc vous voyez déjà la bivalence de Réhou, hein? La direction est associée à la vie, c'est Réhou, la direction ouest associée à la mort, c'est toujours Réhou. Aujourd'hui, vous avez beaucoup, partout la représentation de Réhou dans les pagodes, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Hein? Là, c'est un portail d'une pagode, voilà un autre Réhou sur un autre portail de pagode. Voilà un Réhou et un monstre sur le fronton d'un vihir, d'une pagode, etc. Alors ici, on peut prêter un peu plus d'attention. Vous avez Réhou en train d'avaler un an. Et ce Réhou porte un stupa. Un stupa, par définition, c'est un monument qui contient des reliquaires. C'est la mort. Alors, comparons cette image avec ce qu'on a vu il y a un instant. Au Prapadilai. Voilà Réhou portant le Bouddha couché. Voilà Réhou portant un stupa. Je me souviens quand j'apprenais l'histoire de l'art indien il y a longtemps, on nous disait que le stupa à l'origine en Inde représentait le corps même du Bouddha. Voyez-vous? Donc, si vous faites cette transposition, il n'y a aucune différence. n'y a aucune différence. Maintenant, la pièce à conviction, si je puis dire, comment ça s'appelle, dans les archives des manuscrits du Cambodge à l'école française d'Extrême-Orient, ici, 22 avenue Wilson, ce numéro-là était un numéro provisoire, mais sûrement Grégory connaît le numéro définitif, puisque c'est lui qui s'est chargé de répertorier tout ça. Le manuscrit ne se présente pas comme ça, c'est un texte, mais je le mets en schéma. Qu'est-ce qu'il est dit dans une petite partie de ce manuscrit? Il est dit que le grand dieu Maheshvara, en khmer c'est Prabhormaiso, prononcé Bormaiso par les gens du peuple. Le grand Bormaiso, c'est-à-dire le grand Shiva, si vous voulez, constatant que les directions de l'espace n'ayant pas de gardien, si on peut dire, il envoie des dieux pour être des régents de ces directions-là. Donc, il commence par envoyer Prehatet, c'est-à-dire le soleil. Le mot Atet veut dire à la fois soleil et le jour dimanche. Hein? À l'est, ça nous apparaît normal, le soleil à l'est. La lune au sud-est, le Ankir. Ankir, c'est le nom de la planète Mars, mais c'est surtout le nom du jour mardi. Hein? Ankir au sud, mercredi au Mercure au sud-ouest, Jupiter Prochoa à l'ouest, Soc au nord-ouest, Sal le samedi, Saturne au nord. Et il constate que les sept directions étaient assurées, mais qu'il y a un vide au nord-est. Donc il décide d'envoyer Rahu au nord-est. Et on sait que le nord-est est la direction par excellence de la réincarnation au Cambodge. C'est bien connu, ce n'est pas seulement connu des chercheurs, c'est connu par les gens du peuple. Hein. Quand vous dites, vous savez, les noms des principales directions cardinales sont en khmer. Sont en khmer ou mon khmer, hein, mais ce n'est pas du sanskrit. Mais tous les mots pour les directions intercardinales, nord-est, sud-est, etc., sont tous en sanskrit. Mais si vous parlez si vous dites le nom du nord-est qui est sanskrit, hein, à n'importe quel illettré ivrogne au fin fond de la campagne, il sait ce que c'est, mais pas le reste. Seulement le nord-est. Tellement cette direction est prisée et connue. Je tire la conclusion que, il faut toujours vous rappeler que Rahu, c'est le démon de l'éclipse. L'éclipse, c'est quoi? C'est la disparition suivie de la renaissance. Hein? Parce que Rahu, il avale puis il recrache. Voilà une grande question. Je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir apporter la réponse à ce débat qui a toujours existé. Il fut un temps, surtout, je pense que c'était dans les années 30, où le débat était assez âpre entre les grands chercheurs de l'époque, surtout entre Georges Sédès et Jean Krzyluski. Mais regardons simplement ce qui se passe aujourd'hui, et surtout là où il n'y a pas beaucoup de touristes. Voilà l'intérieur d'un sanctuaire. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des urnes funéraires qui contiennent les reliques, qui contiennent la cendre des ossements provenant de l'incinération. Voilà un autre sanctuaire, vous voyez la même chose, le reliquaire. Ici, c'est encore plus spectaculaire. Voilà l'un des édifices religieux les plus vieux au Cambodge. Oubliez la partie supérieure, mais là, dans la province de Phong Cha. Aujourd'hui, on met une statue du Bouddha, mais à côté, qu'est-ce qu'il y a? C'est même pas la cendre provenant de l'incinération. C'est un squelette presque entier que quelqu'un a mis à côté. Donc on voit bien là. Je ne dis pas que je n'ai pas de théorie, mais force est de constater que il y a une dimension funéraire des temps. Pourquoi funéraire? Parce que la mort est associée à la renaissance. Parce que dans tous les actes de mérite, finalement, qu'est-ce qu'on vise? On vise l'avenir, ce qui est appelé à renaître. Surtout dans la province de Kompot, vous avez un certain nombre de temples, de sanctuaires qui se trouvent à l'intérieur des grottes. Et puis c'est toujours associé au rite funéraire aussi, vous voyez. Ici, malheureusement, un autre temple troglodyte comme ça. Il y a eu un pillage à un moment, ce qui fait que les pots qui contenaient des ossements ont été détruits et tout ça. Mais ça se trouve à l'intérieur de... Vous savez, je ne vous apprends rien en disant que la grotte, c'est... Dans l'histoire de l'humanité, la grotte, c'est la matrice. Hein, c'est là où le fœtus va sortir, etc., etc. C'est pour ça qu'on met... C'est pour ça, d'abord, le temple lui-même est un... parmi les multiples mots sanscrits qui désignent un sanctuaire, il y a un mot graha qui veut dire simplement... pas graha, garbha, en khmer kwa, qui veut dire le ventre maternel. Ça évoque quelque chose appelé à venir, appelé à renaître. Donc ça, c'est le ventre déjà, dans le ventre, et à l'intérieur, vous avez tout ça. Et là, dans une fouille archéologique à Monte Israël, les archéologues se sont trouvés devant des dépôts d'ossements comme ça. Ça ne date certainement pas du temps de l'érection du temple, peut-être pas du 10e siècle, mais... ça remonte à plusieurs siècles quand même tout ça. On n'a plus de ces pièces-là aujourd'hui. Je ne sors pas du tout du sujet, mais j'en aborde le deuxième volet. Le dieu Yama, les Khmers aiment dire Yomrien. Dans l'ancien Cambodge, Yomrien, ça veut dire le roi. Yama. Yom, ça se prononce Yom en khmer. Voilà une statue probablement du 15e siècle. Yama est un dieu, mais c'est un dieu pas comme les autres. Parce que par définition, les dieux sont des êtres immortels. Or, Yama est un dieu qui a fait l'expérience de la mort. C'est un dieu particulier. Il est donc le dieu de la mort, le dieu des morts, et par conséquent le dieu des vivants, parce que nous sommes tous appelés à quitter ce monde un jour, et c'est lui que nous irons voir en premier, si on est croyant. Donc vous ne pouvez pas l'éviter, c'est lui qu'on va voir en premier. Yama a comme monture, ça c'est dans la tradition classique, a comme monture un buffle, dont là il chevauche un buffle, là aussi il chevauche un buffle à trois têtes, en plus, aussi un buffle à trois têtes, ce sont des pièces provenant de régions et d'époques différentes. Ici, on commence à voir la double représentation de la mort, puisqu'on voit le symbole, c'est-à-dire Ariahu, et on voit le dieu, notre dieu direct, là, le Yama. Le Yama tient toujours un bâton, parce que c'est le juge, quand vous êtes mort, vous passerez par lui, c'est le juge des morts qui décide que vous alliez dans les cieux ou plutôt vers le bas. À encore voir sur vous avez un peut-être que ça mesure une cinquantaine de mètres ou un peu moins, je ne sais pas, mais toute cette partie de la galerie sud est consacrée aux cieux et aux enfers. On ne sait pas combien de cieux il y en a, mais on sait qu'il y a 32 enfers. C'est une tradition qui est bien fixée dans les traditions, aussi bien à Angkor Wat que dans l'épigraphie khmer et sanskrit, dans les inscriptions. Ici, au tout milieu, on voit le dieu Yama avec ses multiples bras et bâtons chevauchant un buffle. Je ne vais pas vous montrer toutes ces images-là, mais... Et voilà, tout à l'heure, c'était une représentation du XIIe siècle, mais on a des inscriptions, toutes ces inscriptions, la connaissance de ces inscriptions, je la dois à mon collègue Sion Zepiret, qui travaille sur la question. Par exemple, le K277, qui est une inscription bilingue, part dans la partie Khmer, subiront les châtiments royaux de toutes sortes et iront dans les 32 enfers et le monde de Yama, c'est-à-dire Yomriet, c'est-à-dire le dieu des morts. Dans la partie sanscrite, la même inscription parle des damnés frappés avec des bâtons de fer par les violents Kinkara. Je le mets au rouge parce que c'est un nom qui mérite attention. Kinkara, ce sont les multiples serviteurs de Yama. Une autre inscription. On parle aussi des Kinkara. Je dis Kinkara à la manière plus ou moins sanscrite. Les Cambodgiens de l'époque ne prononcent sûrement pas ça comme ça. Peut-être qu'ils disaient King ou quelque chose comme ça, simplement. C'est aussi une inscription bilingue. Et dans la partie sanscrite, on relève, etc., frappé par les Kinkara à la bouche grimaçante de Côte d'Air. Bon, ça, ce sont les inscriptions. Si on regarde maintenant, on retourne vers Angkor Wat, on voit des valets de Yama comme ça, de Yomriet, on voit des serviteurs qui ont l'air méchants, voyez-vous, qui torturent les gens. Et mon collègue, ce Pierrette, et moi, après lui, je pense que ce sont des Kinkara, donc pas les inscriptions. Voilà Angkor Thom. Angkor Thom, c'est tout ça. Voilà le centre, le Bayonne. Voilà le palais royal d'Angkor Thom, occupé pendant 5 ou 6 siècles quand même, qui fonctionnait comme le palais royal. Voilà le palais, et au nord, mais pas exactement au nord, parce que ça se décale vers l'est. On dirait au nord-est, vous avez un endroit qu'aujourd'hui on appelle la terrasse du roi lépreux. Le roi lépreux, c'est Yama, la première image qu'on a vue. C'est devenu dans la tradition populaire le roi lépreux. Mais là, soit dit en passant, vous voyez le palais royal actuel. Et au nord-est, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'aire de crémation qui s'appelle Vilmen. Et les archéologues Et moi, après les savons, je crois dur comme fer que ça avait une multiple fonction comme aujourd'hui, mais avant tout, l'endroit de la crémation, l'aire de crémation. Ça n'a pas beaucoup bougé l'organisation de l'espace. Hein. À Bangkok, c'est pareil. Le Vietnam taille est plus grand. Voilà, je reviens au Palais Royal. Donc voilà la terrasse du roi lépreux. Le roi lépreux aujourd'hui au musée national, bien nettoyé et tout, mais quand on l'a découvert, il était comme ça. D'où la légende du loup. Vous voyez bien, ça ressemble à quelqu'un atteint par des maladies de la peau, par la lèvre. Bon. Il était posé ici, sur cet emplacement. Hein. C'est-à-dire au nord-est. Et on sait que c'est Yama à cause, parce qu'il y a une inscription. Une inscription en, ici, quelque part ici, qui l'identifie avec le dieu Yama, le dieu des morts. Et nous avons plein de sculptures en bas-relief ici. Vous voyez régulièrement dans chaque rangée, régulièrement des personnages que j'identifie au Kinkara, aux gens de main de. Aux hommes de main de Yama. Dans le Cambodge moderne, surtout dans la région d'Angkor, les gens parlent de Takam. Ta, ça veut dire simplement grand-père. Hein? Le nom, c'est Kang. Kang, c'est le king. Parce qu'on ne prononce pas les voyelles brèves ici. Hein? Kang, c'est exactement ça. Mais alors, aujourd'hui, ça n'est plus qu'une personne très sévère, à l'occasion méchant, et secondée par des chiens féroces. Quand évoque-t-on le Takam, grand-père Kam, c'est toujours pendant la fête des morts. La fête des morts, c'est la quinzaine des morts hein, qui vient de s'achever mardi dernier. La fête des morts. Je reviens un peu à la région d'Angkor. Voilà un pavillon, une aire de crémation provisoire encore une fois. Tout ça c'est fait pour une crémation et puis on démonte. On détruit. Voilà l'emplacement, voilà l'aire de création en entier. Et puis le pavillon de crémation ici. Dans la partie, dans le quadrant nord-est, vous avez l'hôtel de Yama, de Yomriye. Le nord-est, encore une fois, c'est la direction de la réincarnation. Voilà le pavillon de crémation au centre. Voilà la crémation, etc. Voilà l'hôtel de Yomriye. L'hôtel de Yama. Et qu'est-ce qu'il y a à côté? On a érigé 5 monts de sable. Or, les monts de sable, d'ordinaire, ça s'érige, mais systématiquement, au Nouvel An. Parce que qu'est-ce que c'est que le Nouvel An? C'est le temps nouveau, donc c'est l'espace nouveau aussi. Mais pourquoi, comment expliquer la présence de quelque chose qu'on érige au Nouvel An seulement dans une crémation? C'est parce que c'est la renaissance. Le précédent cycle a été entamé, maintenant c'est achevé, maintenant on entame le nouveau. D'où la présence de ça, des 5 monts de sable. Quelques mots sur le Phyom Pan, c'est la quinzaine des morts, encore une fois, qui s'est achevé mardi dernier. La quinzaine des morts, si vous posez la question aux gens, systématiquement, ils vont vous dire que c'est une fête bouddhique. Ce qui est normal, parce que ça ne peut avoir lieu que dans les pagodes. Il faut absolument la présence des moines bouddhistes, des bons. Hein? Ça ne peut pas se faire à la maison. C'est normal. Mais en fait, ça plonge ses racines directement dans le Cambodge brahmanique, parce qu'on a des inscriptions, tout ça, dont je ne vais pas parler ici. Voilà, c'est un fronton d'un temple qui date peut-être de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe. C'est un temple bouddhique, mais mahayanique, du Mahayana, pas le bouddhisme d'aujourd'hui. Vous voyez le dieu sauveur, le Lokeshvara, etc. Mais vous voyez ce que nous appelons des prêtres. Prêtres, c'est la prononciation en khmer du sanskrit preta, qui sont des âmes errantes, incapables de se nourrir et qui ont besoin d'un corps pour pouvoir se réincarner. Des êtres affamés, des âmes errantes, condamnées. Le but de la fête des morts, c'est quoi? C'est de délivrer ces âmes errantes-là, ces âmes affamées. C'est de les délivrer de leurs conditions antérieures. C'est de les aider à renaître. Avec quoi? C'est de leur donner un corps, parce qu'ils ont besoin de corps. Ce sont des âmes, ils ont besoin de corps pour se réincarner. Ce corps est matérialisé par des boulettes de riz. Aujourd'hui, les gens interprètent les boulettes de riz comme étant de la nourriture, tout ça, mais c'est faux. Parce que l'une des meilleures preuves, c'est que ces boulettes de riz sont en riz gluant. Et à la différence des Laotiens, nous, on mange du riz ordinaire. Et pourquoi donnerait-on du riz gluant au... Un peu pour vous montrer la quinzaine des morts, chaque soir, voilà une sala. Une sala, c'est un pavillon, un édifice mi-religieux, mi-profane. Dans une sala, à l'angle nord-est toujours, vous avez l'hôtel de Yom Riet. Et vers 7h du soir, en tout cas pour la région d'Angkor, on prie Yom Riet. C'est une séance de récitation de prière qui dure 20 minutes par là, tous les soirs. Pourquoi? Parce que Yom Riet Yama, c'est le dieu des morts. Donc nos dieux aussi, notre dieu aussi. Voilà les boulettes en question. En principe, chaque boulette est un corps. Ça peut donner l'occasion à une âme errante de prendre corps. Donc de renaître. Le but, c'est ça. Le but ultime, c'est ça. Et pendant là, ils confectionnent en commun, là, ils font en commun ces boulettes de riz, voyez-vous? Ça se passe en rase campagne, là, hein? c'est pas en ville. Alors, ils murmurent des choses, ce ne sont pas des formules un peu libres, hein, qu'on peut... Alors, ils disent quelque chose, ils s'adressent à Takan, au Kinkara, voyez-vous. Mais Takan au Cambodge, c'est un personnage singulier, hein, et non pas une troupe de... Attachez votre chien au grand-père Kang, de sorte que nous puissions acheminer les boulettes de riz à nos ancêtres. Vous voyez que la civilisation d'Angkor n'a pas tout à fait disparu. Mais tout ça, il faut un peu creuser les choses. Et avant l'aube, il faut que ça soit avant l'aube, mais il faut que ça soit assez proche de l'aube, parce que les prêtres vont renaître, hein? Le soleil qui va se lever, tout ça. On fait 3 tours de ça, cette fois-ci du sanctuaire du Vihir. Vous constatez qu'à l'angle nord-est du Vihir, il y a un hôtel de Yom Riet encore. Alors on fait les 3 tours, là vous voyez clairement les images, c'est le flash de l'appareil photo. Hein. En fait, il doit faire nuit. Et on jette des boulettes de riz bactères ou on les met ici, ou on les met, voyez-vous, ils sont en train de jeter les boulettes de riz à l'adresse des âmes et Aaron. Et chaque fois, pendant les trois tours, voilà, ici, bactères, ici à côté dans ce stupa, et chaque fois qu'ils arrivent à l'angle nord-est du sanctuaire, ils s'arrêtent pour prier. Voilà, une attention particulière à l'angle nord-est. Il y a un hôtel particulier qui est celui de Yama. Voilà. Et voilà l'officiant qui mène le cortège. Là. Et le lendemain, ils font des trucs. Merci beaucoup.